I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a bâti une partie de ses goûts sur des films au concept très affirmé, étendant au grand écran le jeu millénaire connu de tous les enfants, le fameux « Et si on disait que ?» Et si on disait que je me réveillais tous les jours pour revivre la même journée ? Et si on disait qu'un super robot tueur débarquait du futur pour foutre le bordel ? Et si on disait que le monde n'existait pas et qu'on vivait tous dans une réalité virtuelle programmée par des machines ? Et si on disait que plus personne ne se souvenait de l'existence des Beatles, à part un type qui allait devenir une superstar grâce à leur chanson ? Ça, pour le coup, c'est un vrai pitch. Lui aussi, le pitch du film qui nous intéresse là tout de suite, Yesterday de Danny Boyle, dont on va causer avec un trio dont la cinéphilie n'a d'égal que la mélomanie. J'étais sûr que j'arriverais pas à le dire. Julie Le Baron, salut Julie.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Hey Jude.
Et Perrine Quenson, salut
Perrine.
Salut Thomas.
Ça commence très bien. C'est Nos Ciné, épisode 198, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Yesterday, bon, j'ai déjà très largement dévoilé les prémices de l'intrigue, mais passons, c'est donc l'histoire de Jack, musicien amateur anglais incarné par Himesh Patel, qui galère assez férocement pour tenter de vivre de son art malgré le soutien indéfectible de son ami d'enfance Ellie, alias Lily James. Arrive alors l'inattendu, un accident de la circulation doublé d'une étrange panne générale de courant qui laisse Jack sur le carreau quelques temps jusqu'au jour où il peut enfin gratouiller de nouveau sa guitare et qu'il s'aperçoit que plus personne ne se souvient des Beatles, mais que tout le monde, de plus en plus de monde d'ailleurs, aime l'entendre jouer leurs morceaux. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday.
When did you write that?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles.
Who?
John, Paul, George and Ringo, the Beatles.
No. Stop it.
Yesterday. It's one of the greatest songs ever written.
Well, it's not Coldplay. It's not Fix You.
Derrière la caméra, je l'ai dit, c'est Danny Boyle qu'on ne présente plus. Et au scénario, c'est Richard Curtis, scénariste de 4 mariages et un enterrement, de Coup de foudre à Notting Hill, évidemment réalisateur de Love Actually et de Good Morning England, réalisateur préféré de Stéphane Moïsakis, faut-il seulement le préciser. J'en profite parce qu'il est assis à côté, qu'il n'a pas de micro. Au casting, outre Himesh Patel et Lily James, on trouve la redoutable Kate McKinnon de Saturday Night Live, Stéphane, arrête, et quelques caméos de luxe, dont ceux du chanteur Ed Sheeran et de l'animateur télé James Corden. Votre avis sur Yesterday, les amis? Je vais attendre que Perrine Quenson finisse sa gorgée d'eau. Je vais donc donner la parole à David Honora. Tant pis pour Perrine.
Mon avis...
C'est très chaud, on est en pleine canicule, on a beaucoup de mal à travailler.
Il faut penser à vous hydrater.
Voilà, hydrater vos proches.
Non, bah, Yesterday, moi, ça me rappelle que à quel point, en fait, mine de rien, Danny Boyle est quand même pas un bon réalisateur. C'est quand même un gros, gros problème, quoi. C'est-à-dire...
Ça
se voit dès... Alors, je trouve qu'il y a pas mal de films sur lesquels il a pu un peu sauver les meubles par moments, soit parce qu'il a un très bon sujet, un très bon scénario, des très bons acteurs qui captent quelque chose de l'art du temps, comme dans Trainspotting ou quelque chose comme ça. Là, je trouve que le sujet est plutôt pas mal. La bande-annonce était assez alléchante et je trouvais qu'il y avait un fort potentiel. Et vraiment, moi, ça m'a fait un effet patatras, essentiellement à cause d'une réalisation, mais qui est en dépit du bon sens de Danny Boyle, quoi. Enfin, c'est vraiment sur tout le début du film, ça enchaîne les faux raccords, c'est monté n'importe comment. Il va avoir tendance à mettre un moment un plan de coupe de biais, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est même fatigant, psychologiquement de regarder un film, enfin qui est aussi mal construit, aussi mal monté. Malgré tout, l'histoire est assez chouette sur le papier. Il y a des choses intéressantes. L'utilisation aussi de, pour le coup, toute la discographie des Beatles est assez payante parce que il y a ce plaisir d'écouter tous ces morceaux. Et voilà, tu te dis que c'est un peu gagné et que il y a un truc qui est très fort et qui est dû, je pense, pas mal à Richard Curtis parce que il travaille souvent cette matière. C'est que c'est un peu un fantasme. Tu as envie d'être dans la peau de ce personnage en disant si j'avais ce super pouvoir en fait de connaître tout ce que les Beatles ont écrit, comment je l'utiliserais. Et voilà, il y a ce côté un petit peu film dont vous êtes le héros où tu te projettes un peu dans le truc et ça est potentiellement assez plaisant, mais par plein de petites touches, le film, je trouve, se casse la gueule. Le premier truc, c'est qu'en fait, je trouve les règles du jeu pas très claires. Notamment, il y a une logique. Donc, en gros, le personnage principal a un accident pendant une coupure de courant mondiale de 12 secondes. Et quand il se réveille d'un court coma, il s'aperçoit que tout le monde a oublié les Beatles. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est pas extrêmement logique, mais passons. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu, en fait. Il y a des choses qui sont un peu logiques, et notamment ça fait l'objet d'un gag. Par exemple, Oasis. Il découvre que Oasis n'existe pas. Voilà, ça c'est évidemment.
C'est drôle. C'est drôle.
Ça c'est plutôt drôle. Et en fait, il y a d'autres trucs dont on découvre que ça existe plus, mais il n'y a pas vraiment de lien. Et voilà, il y a des informations qui arrivent comme ça, qui en plus. Pareil, c'est la faiblesse du montage parallèle à la Danny Boyle. C'est-à-dire qu'il te raconte une histoire d'un personnage qu'on voit dans le fond d'une salle, comme si c'était un truc mystérieux, etc. Pour résoudre le truc 20 minutes après, c'est pourri, quoi. En fait, il fait des effets. Un truc qui résume la nullité du truc, de son approche des effets. Le personnage a un coup de fil d'Ed Sheeran. Il a deux coups de fil de suite. Au début, il croit que c'est une blague. Après, il dit non, franchement, je crois que c'était bien Ed Sheeran. On voit Ed Sheeran de dos sonner chez lui. Et en fait, il fait le contre-champ dans une sorte de miroir un peu brisé, une sorte de forme qui déforme et qui rend flou. Et donc, le premier plan de face sur Ed Sheeran est rendu flou, comme s'il fallait ménager le suspense de dire « Ah, c'est vraiment Ed Sheeran !» Et il multiplie les effets comme ça, qui du coup tombent toujours à plat parce que... c'est nul, mon gars, Danny, là, ça fait 15 minutes qu'on sait que tu vas faire ça, donc...
C'est nul, mon gars, Danny, quoi.
Non, mais voilà. Et donc, voilà, j'étais très, très sceptique pendant tout le film. Et alors après, moi, il y a l'autre travers qui, là, pour le coup, il y a les qualités de Richard Curtis et il y a aussi les travers de Richard Curtis. Même si Perrine dit non. C'est le côté, alors il y a le concept de la Manic Pixie Dream Girl, j'ai du mal à le prononcer. Et alors là, tu as cette fille trop mignonne, trop chouchou, qui est adorable.
Mais c'est pas non plus l'autre de New Girl, quoi. Enfin, ça va.
Ah oui, c'est pas Zoé Deschanel non plus.
Ouais, elle a une personnalité.
Zoé Deschanel, je serais sorti de la salle. Mais donc, c'est l'actrice, c'est celle qui avait d'ailleurs un rôle assez similaire dans Baby Driver. Qui est la faire-valoir du personnage principal, et donc là, qui est adorable, c'est une petite prof de maths super mignonne qui accompagne le mec depuis 10 ans, elle est secrètement amoureuse de lui et on va découvrir que lui aussi, mais qu'en fait c'est compliqué, ils osent pas se le dire et tout ça. Et ce qui me gêne en fait, c'est que toute la romance repose sur le fait qu'ils se disent pas les choses, quoi. Et l'échec de la romance repose sur le fait qu'ils ne disent pas les choses. Et tout est amené pour dire « Ah, franchement, si on était sincère et honnête, peut-être qu'en fait, on pourrait vivre ensemble. » Ce qui est une morale cool, mais qui est, je trouve, hyper faible d'un point de vue cinématographique. Et du coup, je me suis un peu ennuyé là-dessus.
Julie ?
Déjà, pour commencer, je trouve un peu cruel avec mon gars Danny, là. Non, mais disons que...
Décidément, vous êtes tous extrêmement intimes avec Danny Boyle, ça commence à m'inquiéter.
C'est ça.
Il a l'air sympa, ce mec.
Mais mais disons qu'en gros, j'ai vu quasiment tous ses films. J'ai jamais trouvé que ses films étaient géniaux, si tu veux, mais j'ai pas non plus d'antipathie pour lui. Pour moi, c'est des films qui se matent très facilement, souvent. Et qui et il a aussi ce truc de tester plein de choses différentes. Et là, bon, effectivement, ce que tu dis sur les plans de biais, c'est un truc qui m'a frappé aussi. Genre, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Ça arrive plusieurs fois dans le film et tout.
Il tente.
C'est ça, il tente des choses, quoi, comme à son habitude. Mais à part ça, ouais, non, en termes de réalisation, j'ai pas grand-chose à redire, ni grand-chose à louer. Donc c'est ça le problème. Le truc, c'est que donc faut prendre, je pense qu'il faut prendre Yesterday pour ce qu'il a, tu vois. C'est un feel good movie où faut laisser un peu son aspect critique de côté. Enfin, Perrine n'est pas d'accord. Je sens qu'on va se faire allumer après derrière. Mais disons que en gros, c'est un film qui a quand même plusieurs promesses. Donc il a un concept, comme vous l'avez dit, un concept qui est assez alléchant, qui l'exploite parfois très bien. Donc il y a le moment donc où Imesh Patel donc découvre que les Beatles n'existent pas de manière assez lourde d'ailleurs, tu vois. Genre le mec se réveille d'un coma ou je sais pas quoi, il va faire 3 références des Beatles dans la journée. Et là, on fait « Ah oui, d'accord, en fait, il y a un petit souci. » Mais donc, t'as ce moment où il cherche sur Internet pour se persuader qu'ils n'existent vraiment pas. Enfin, t'as plein de trucs très drôles où il joue des morceaux des Beatles, il comprend pas pourquoi personne ne connaît et personne trouve ça génial. Donc, ça peut être parfois drôle. Mais disons que je peux pas m'empêcher d'y voir une opportunité manquée, dans le sens où un tel concept, ça aurait permis de soulever des questions assez intéressantes sur la notion d'auteur dans la musique, la notion de génie, et le fait aussi qu'on fétichise souvent certains artistes, on fétichise leur âge, le temps qui passe à faire certaines compositions. Ça, je pense que c'est un truc qui a été très vite fait tacler, et c'est dommage, en fait. Enfin, c'est assez survolé. Et il y a aussi toute la question éthique, en fait. Enfin, le personnage, en fait, le gros problème que j'avais, Imesh Patel, disons que c'est un oui, ses reprises sont pas mauvaises, à part celle de Help Me, il faut qu'on en parle, elle est vraiment affreuse.
Elle est un peu agressive.
Mais sinon, pour le reste, oui, j'ai eu des frissons et un certain plaisir à redécouvrir le répertoire des Beatles, vraiment, quoi. Mais disons que j'avais très peu d'affection pour le personnage principal. Moi, toute mon affection, elle venait à donc, Lily James, donc Ellie, sa manageuse, slash prof de maths, qui effectivement est une manic pixie dream girl, mais qui au moins a ce truc de pas être prête à tout plaquer pour lui. Le moment où lui, il s'apprête à faire la tournée, une tournée avec Ed Sheeran, elle lui dit, non mais... excuse-moi, j'ai une réunion parent-prof, je vais pas lâcher tous mes élèves, quoi. Et j'aimais bien le fait qu'elle soit un peu ancrée dans la réalité, qu'elle soit pas aveuglément amoureuse de lui. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais donc, pour en revenir à Imesh Patel, donc là, pour moi, le souci, là, ça vient plus de Richard Curtis, qui... alors, j'ai remarqué un truc avec Richard Curtis, c'est que j'ai beaucoup de ses films, je les ai énormément vus au lycée. Enfin, j'ai regardé Love Actually peut-être 10 fois au lycée, ça m'a fait beaucoup rêver et tout, etc. Je les ai rematés plus tard.
Stéphane, t'es en train de mettre le feu, si tu
dis. Ah ouais, non, mais y a pas de souci, vas-y Stéphane. Hein. Et une grande romantique, quoi, Noël, tu vois, t'as envie de rêver un peu, quoi. Et je les ai rematés, et souvent, je me rends compte qu'en fait, la plupart des personnages qu'il dépeint, c'est un peu des cons. Justement, tu peux voir un acte follement romantique comme dans Love Actually avec le gars qui se ramène à la porte de la meuf avec des pancartes pour moi tu es parfaite et tout, mais en fait c'est juste un gros creep qui filme la meuf de son meilleur pote. Et là dans Yesterday, c'est pas complètement absent. Disons que quand Imesh Patel se rend compte, enfin bon bref, sans spoiler trop le film, j'ai très peu d'affection pour lui et au contraire je trouve même que c'est une odieuse personne. ce qui est assez déplorable pour un feel good movie, mais voilà.
Perrine, la parole est à la défense.
Oui, non mais voilà, on évacue tout de suite. Oui, moi je veux vivre dans le monde créé par Richard Curtis et ça me va très très bien. Donc à partir de ce moment-là, j'évacue. Sur Danny Boyle, sur Danny Monga, je suis assez d'accord sur certaines choses.
Danny Monga.
Je suis assez d'accord sur certaines choses, même si en soi, je trouve que parfois il tente certains trucs, notamment quand le mec voit sa popularité monter sur Internet avec les écrans, ce qui était déjà dans Wreck-It Ralph par exemple, mais que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en fait visuellement. Les plans de biais, pour montrer que c'est une sorte de réalité décalée. Oui, c'est un peu mochasse sur le moment, mais finalement, ça a un peu de sens, mais c'est un peu mochasse, on est d'accord. Mais c'est vrai que, en soi, je trouve pas que la réalisation de Danny Boyle apporte particulièrement, même, sauf certains plans, parfois, plutôt intéressants, je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses particulièrement au film. Après, sur ce qui est de l'utilisation des Beatles, clairement, ce qu'il veut raconter, comme ce que veut toujours raconter Richard Curtis, c'est quand même une histoire d'amour. Ce qui l'intéresse, c'est purement ça. Hein. C'est ce qui l'intéresse, c'est Boys Meet Girls, comment déclarer sa flamme, comment avouer ses sentiments, comment être en phase avec ses sentiments. Parce qu'en fait, lui, je suis pas sûre qu'au début, en fait, il soit amoureux d'elle du tout. Elle est désespérément amoureuse de lui et elle lui envoie des signaux, mais c'est interdit d'envoyer des signaux pareils. Il voit que dalle. Mais c'est parce que lui, il est tellement centré sur lui-même, et en ça il peut être un peu désagréable. C'est quelqu'un qui est terriblement auto-centré et qui finalement va ouvrir un peu les yeux dans le reste du film, mais c'est quand même quelqu'un qui ne pense techniquement qu'à sa gueule. Et ce qui est intéressant, donc en fait voilà, faut penser que c'est ça, c'est pas un film sur les Beatles, mais c'est quand même un film sur la pop culture. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait tu disais oui, il y a d'autres références qui disparaissent pendant le film, les Beatles disparaissent, Oasis disparaît, Harry logique, Potter, mais il y a d'autres qui disparaissent, on va pas toutes les citer parce que c'est ça qui est un petit peu drôle de les voir apparaître, mais en fait ce que j'aime beaucoup et ce qu'est en train de nous raconter Richard Curtis, c'est que l'idée de la puissance de la pop culture, c'est à quel point cette pop culture nous rassemble, à quel point cette pop culture crée du souvenir commun, crée du lien commun. C'est ce qui va créer, ce qui va rapprocher des personnages dans le film, notamment les deux creeps qu'on voit à un moment donné, mais à plusieurs moments, mais et aussi l'idée de cette création. Tu parlais de la création. Moi, je trouve que justement, dans le film, c'est intéressant ce qu'il nous raconte, c'est quel droit on a sur la culture, quel droit on a sur la création, d'où vient cette création, en fait. Clairement, le personnage d'Image Patel, la création est là parce qu'il se souvient des chansons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se souvient que des tubes, en fait. Puisque finalement, on a beau connaître des artistes par cœur, on dirait Jean-Jacques Goldman a disparu. Bon, je me souviendrai de quelques chansons, faut pas déconner, je connais pas les albums par cœur.
Il y a ce truc assez marrant que sur certaines chansons, il galère. Il y a des chansons qui ont des paroles assez compliquées, comme Eleanor Rigby. Et du coup, il galère vachement à retrouver les paroles.
Et c'est intéressant, en fait, l'idée, c'est où est-ce qu'on va chercher. Voilà, il n'a pas Google, puisque de toute façon, ça n'existe pas. Et donc, c'est obligé de faire travailler la mémoire. Mais donc, c'est l'idée de aussi, à partir du moment où on a ce pouvoir de la création, de la culture, finalement, c'est comme s'il était touché de manière divine par un savoir que les autres n'ont pas, quel est son droit dessus, en fait. C'est un droit de transmission, c'est le seul droit qu'il a, en fait. Il n'a pas le droit d'en faire de l'argent, il n'a pas le droit d'en... Non. Et donc, il y a tout un discours, en vérité, sur la transmission de la culture, ce que je trouve assez fascinant. D'ailleurs, c'est assez osé, je trouve, de la part de Ed Sheeran, de prendre ce rôle-là où finalement il passe un peu pour un con, il passe un peu pour un salaud, et je trouve que c'est un petit peu intéressant qu'il ait ce recul-là aussi, de se dire à un moment donné qu'est-ce que c'est mon rôle de transmettre ce pouvoir que moi j'ai de la composition. Et il y a aussi un autre rapport, et là carrément Brexit pour le coup dans l'affaire, qui est assez marrant, c'est que le Brexit a lieu, très bien, et ce qu'est en train de dire Richard Curtis, qui dit c'est très bien, le Brexit a lieu, ne vous tournez pas pour autant vers le miroir aux alouettes américains. C'est très dangereux. C'est un film qui est en fait assez auto-centré sur le Royaume-Uni et qui dit bien, faut rester entre nous avec notre culture, n'allons pas la perdre ailleurs. Donc c'est un film qui est très dans l'air du temps, en fait. Moi, je trouve que le film aborde énormément de sujets en réalité, sous couvert d'être en effet un film feel-good, un vrai, un truc vraiment mignon, peut-être avec une pixie girl, mais moi je ne trouve pas que ce soit une pixie girl parce qu'elle a justement, je suis d'accord avec Julie, elle est ancrée dans le réel, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut et elle n'est pas juste whimsical à regarder un petit peu à droite à gauche et genre ah, je suis trop marrante. Elle n'est pas marrante du tout, hein, pas particulièrement, elle est juste vraiment mignonne, mais elle a vraiment énormément de caractère. Donc non, je trouve que c'est un film qui, pour moi, sous ses traits, comme toujours chez lui, sous ses traits un petit peu magiques, un petit peu romantiques, parle de finalement beaucoup de choses sur l'Angleterre et là en l'occurrence sur la pop culture.
Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix. Ça peut être le Richard Curtis Universe. Je te rassure, Perrine, tu as le droit. Tu as le droit, mais les autres, vous êtes tout à fait libres, comme toujours. Julie.
Ah bah moi, en plein Richard Curtis Universe.
Ah là là,
non,
merci.
Non, pas du tout. Je vais vous recommander un film de Kiyoshi Kurosawa.
Oui, effectivement. On sort un peu.
Absolument, aucun rapport, ouais. Mon pote Kiyoshi, donc, qui a très bien traité, enfin pour moi, le... Sur la thématique de donc mentir à ses proches et vivre un total mensonge, donc c'est un peu éloigné, mais c'est Tokyo Sonata, donc un film que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est donc l'histoire d'une famille à Tokyo, une famille de classe moyenne dont le père est genre directeur administratif. Sa vie, c'est son boulot, enfin bref, il passe son temps à bosser et bien sûr un jour il perd son taf et lui il va continuer à vivre sa vie comme s'il y travaillait toujours, quoi. Et c'est un film assez intéressant sur la pression sociétale, sur toutes les questions d'honneur qu'on aborde souvent au Japon, que je vous recommande très vivement.
David ?
Moi, je vais rester dans l'ambiance british en recommandant une série dont j'avais beaucoup aimé la saison 1 et je ne me suis pas jeté sur la saison 2 parce qu'en fait, il y a un truc avec le personnage principal qui est... et en même temps, c'est la grande force de la série, le personnage principal est très désagréable, mal dans sa peau, mal foutu. La série, c'est Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Et en fait...
Périne, c'est la roue.
Bah, chaud.
Non, mais en fait, c'est vraiment un truc où... voilà, à froid, avec la saison 1 qui était passée, je me dis, ah, j'ai pas envie de me retrouver avec ces emmerdes et tout. Et en fait, je lance la saison 2. Donc, ça, c'est sur Amazon Prime. C'est une série de la BBC coproduite par Amazon. Et en fait, dès les premières secondes de la saison 2, mais tu dis, ouais, enfin, ok, elle est chiante et tout, mais c'est génial. Mmh. Et c'est extrêmement bien écrit. Alors, elle est aussi l'interprète principale de la série qui a été adaptée. Alors, tout le monde a dit que c'était un copier-coller. Je n'ai pas vu, voilà, mais il y a Mouche en français.
Avec, c'est un copier-coller.
Voilà. Avec, comment elle s'appelle, celle qui
est connasse,
Camille Cotin. Mmh. Donc voilà, mais en fait, ouais, Fleabag, c'est un truc qui est hyper intéressant sur. Comme en fait œuvre intime quoi, le personnage, on y croit à 100 000%, elle se raconte, on vit le truc à fond, on est dans toutes ces névroses, ces soucis. Il y a tous les acteurs autour, notamment il y a Bill Paterson qui joue son père, Olivia Colman qui était géniale dans La Favorite, qui joue la belle-mère. Et donc l'objet de la saison 2, c'est le mariage entre les deux. Voilà, l'actrice qui joue la sœur, dont j'ai oublié le nom, est super aussi. Et on est vraiment plongé dans la psyché de cette fille, et c'est très très bien foutu.
Perrine ?
Moi aussi, j'étais bien, c'est parti sur une série britannique aussi, mais c'est, qui n'a pas grand-chose à voir en réalité avec le monde de Richard Curtis, même si vous regardez tous les films écrits et réalisés par Richard Curtis, voilà. c'est bon pour vous, c'est bon pour le moral.
Reviens, Stéphane.
Il n'a pas de micro, j'en profite. Et donc,
il n'a pas fait le scénario d'Anaconda.
Il a été consultant sur le film, je crois.
Mais,
mais je vous recommande. Non, c'est Anaconda rencontre. Je suis plus tranquille. Anacondette, je ne sais pas. Mais non,
quatre mariages et un anaconda.
Ok, ça va trop loin.
Et donc, la série britannique que je vous recommande, parce que je souhaite que personne ne passe à côté de cette série qui vient de se terminer et qui est un pur chef-d'œuvre de la BBC, c'est Years and Years. Pur chef-d'œuvre absolu de la BBC, dans l'anticipation. On suit une famille, c'est un peu This Is Us rencontre Black Mirror, mais l'idée, c'est vraiment, on suit une famille en 2019, et dès le premier épisode, on prend 5 ans dans la tronche, et on imagine, à partir de notre réalité actuelle de 2019, on extrapole à ce que ça pourrait devenir dans 5 ans, et de manière très très juste, très très plausible, et chaque épisode, il y en a 6, prend un an supplémentaire. Donc au bout du compte, on a 10 ans de plus, on est en 2029, et c'est ultra dur, c'est et en même temps très émouvant, très fort, on est très impliqué dans la série. C'est, je pense, en termes d'écriture, la meilleure chose que j'ai vue cette année, c'est sûr, mais depuis longtemps. C'est extraordinaire, surtout l'épisode 4. Quand vous regarderez ça, vous jeterez votre télé, votre ordinateur, vous pleurez, vous dormirez pas de la nuit, vous regretterez l'humanité et vous vous engagerez dans des associations humanitaires.
Attends, juste pour préciser, j'avais dit l'autre fois que j'étais abonné à 50 000 services, donc je me renseigne. Est-ce que Years and Years est sur quelque chose
MyCanal.
Très bien, très bien. Information importante, tu as raison. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, et on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.